40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus.
Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et bien souvent inutiles. C'est évidemment 40 mètres, les gars.
Le quiz.
On y est.
Et on est très content de revenir une deuxième semaine consécutive, ce qui est assez rare en
ce
moment.
C'est vrai? J'ai pas suivi.
Ah, c'est bon.
C'est deux semaines
ouais,
consécutives.
Ouais, là, c'est deux semaines consécutives. Ouais, okay. ouais, c'est ça. Bon, on est très heureux de vous retrouver avec un thème aujourd'hui, la science-fiction.
La science-fiction. Comme joker que vous pouvez utiliser à tout moment avant l'énoncé d'une question pour doubler vos points sur la question suivante, on a choisi...
Sarah Connor.
Non, c'est à côté.
Voilà, mix entre de la science-fiction et de l'humour-fiction.
Oui, exactement. Et bien sûr, il y a toujours la question twist.
Twist ouais.
Accompagné de ces hurlements, la question twist, c'est vous qui décidez. Plus 1000, moins 1000, on change de pantalon, on change de maison, on change de télé, chérie.
Allez, on achète plus grand.
Ouais.
C'est un peu ça?
Ouais, oui.
C'est un peu le débat à la maison en ce moment?
Ouais,
ou...
tout le monde change de télé, bien sûr. Il y a l'euro.
C'est vrai, bah oui,
il y a l'euro, il y a les Jeux Olympiques.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Je sais pas, il y a des trucs.
Ouais, il y a plein de trucs. Bon, science-fiction, et c'est moi qui commence.
Sarah Connor.
Non, c'est à côté.
Voilà le Joker.
Question Ghostbusters pour commencer. Who you gonna call?
Ghostbusters!
Le dernier vient de sortir au cinéma avec vous, Christophe.
Ben j'espère, j'en sais rien parce qu'au générique de fin ils n'ont mis que Philippe Chéreau, c'est Saligo. Alors
quoi
peut-être que je n'avais pas assez de lignes pour être dans le générique de fin.
Si, quand même.
Mais enfin, j'ai enregistré des lignes.
Bah ben oui, donc allez voir Ghostbusters.
Et dites-moi si je suis dedans.
Voilà. Et vous prenez un peu d'argent là-dessus ou pas sur
oui,
les rentrées?
Ah non, les rentrées non.
Ah.
Non, que les sorties.
Bon,
donc ne restez pas jusqu'au bout.
Écoutez, Christophe, et cassez-vous. Ghostbusters, et comme dans tous les films, tous les épisodes, bien, il y a toujours le même fantôme. Vous savez, le vert, le drôle.
D'accord.
Voilà, et on l'adore. Bah, quel est ce nom?
Aucune idée.
Non, c'est pas vrai.
Ah non, je vous jure.
Bon,
en plus, j'ai vu les tout premiers, j'ai vu le dessin animé
ouais,
qui
bah,
passait à la télévision.
Ouais.
Bah, je sais, c'est l'un des héros.
J'adore. Il est drôle. Bon, alors en anglais, c'est Slimer.
Ok.
Mais en français, c'est Bouffe-tout.
Bouffe-tout,
ouais,
ah bon
oui, Bouffe-tout. Initialement appelé Onion Head et parfois The Man Green Ghost ou The Ugly Little Spud.
Alors, c'est The Mean Green Ghost.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Ah, mais The Man.
Oh, bon, sorry, guys. Est un personnage de la franchise Ghostbusters, bien sûr. Il apparaît dans les films Ghostbusters, Ghostbusters 2, le remake de Ghostbusters, Ghostbusters Frozen Empire, celui-là de cette année, et dans la série télévisée d'animation The Real Ghostbusters. C'était ça qu'on
regardait? Je pense, ouais.
Slimer aussi, il avait son propre show. Et Extreme Ghostbusters. Et dans tous les jeux vidéo. Enfin, il est partout.
Ouais,
partout.
C'est normal.
Alors, pour la petite histoire, lors de la pré-production de Ghostbusters, Ivan Reitman, le créateur, a fait remarquer que Slimer était un peu comme Bluto dans le film Animal House, comme le fantôme de John Belushi. Donc, l'artiste.
Ça, vous en avez déjà parlé, hein.
Ouais,
qui ressemble à John Belushi.
Mais j'ai la petite une info encore un peu plus.
Génial.
Ouais, merci. L'artiste d'effets spéciaux Steve Johnson a sculpté sur le plateau le fantôme glouton, gluant et vert, alors connu uniquement sous le nom de fantôme à tête d'oignon, en raison de l'odeur désagréable de la marionnette. Voilà, ça venait là, le nom. La veille de rendre un premier jet, Johnson a appris qu'Aykroyd, donc Dan Aykroyd et Ramis, voulaient que Slimer soit un hommage à l'image de John Belushi. Avec ces informations, Johnson a pris au moins 3 grammes de cocaïne.
Ok.
Et a cru que le fantôme de Belushi lui rendait visite pour l'encourager. C'est au cours de cet épisode qu'il a sculpté le design final de Slimer.
Donc, d'accord, voilà. On n'avait pas l'info cocaïne.
Voilà, donc il a pris 3 grammes. Je sais pas si c'est beaucoup, ça paraît beaucoup.
Ah non, c'était Héroïne, la chanson de Lou Reed.
Bon, en tout
j'en
cas,
sais pas, oui, j'en sais rien.
Si vous êtes un peu en manque d'inspiration.
Non.
Non, on n'ira pas plus loin dans cette phrase. Question numéro 2.
2005. La guerre des mondes. Personne n'a oublié cette adaptation du roman de H.G. Wells avec Tom Cruise dans le rôle principal. Mais est-ce que vous vous souvenez du nom du réalisateur?
C'est vrai que je...
Ben moi non plus.
Ouais, et pourtant...
Et je l'ai vu 3 ou 4 fois au moins.
Je l'aime bien.
Oui, il est sympa.
Ouais. J'adore le début où il est dans cette petite banlieue résidentielle, Tom Cruise, et il y a ce truc qui arrive et tout le monde part
en courant.
Ben oui.
Ouais.
Bon, d'accord.
Et ben c'est Steven Spielberg.
C'est fou.
La guerre des mondes, The War of the Worlds. Ah non, si c'est ça, The War of the Worlds, est un roman de science-fiction écrit par H.G. Wells, publié en 1898
c'est
quand même.
Dingue,
c'est une
dingue.
Des premières œuvres d'imagination dont le sujet est l'humanité confrontée à une espèce extraterrestre hostile, en plus d'être le reflet de l'angoisse de l'époque victorienne et de l'impérialisme.
Oh.
Succès critique et populaire dès sa sortie, le roman est notamment inclus dans la bibliothèque idéale de la science-fiction. Il est adapté plusieurs fois pour la radio,
oui.
Dont une version d'Orson Welles, hein, ne pas confondre avec H.G. Wells, ça ne s'écrit pas pareil d'ailleurs le nom de famille, qui a défrayé la chronique en 1938, hein, tout le monde se souvient de cette histoire où les gens ont cru que l'histoire était vraie en écoutant la radio. Il a également été adapté en jeu de rôle, en bande dessinée, en 4 longs métrages de cinéma et plusieurs séries télévisées. Le film est un succès commercial mondial, produit pour un budget estimé à 132 millions de dollars, il en récolte plus de 600 millions de dollars dans le monde. Aux États-Unis avec 234 millions de dollars, il est le 4e film au box-office annuel en France. Il totalise 3,9 millions d'entrées quand même, soit le 6e meilleur résultat au box-office l'année 2005.
Okay.
Et qu'est-ce que j'ai noté quelque chose ? Non, c'est
oui.
bon.
Oui, oui, 600 millions.
Voilà.
Voilà. Il y a une bonne série française, je crois, française et anglaise en même temps, ils ont produit ça ensemble, qui était sur Canal+.
Avec Drucker.
Exactement. Et la série est pas mal.
Ça va.
Bon, je vais pas regarder la fin, mais la série est pas mal. Allez, question titre de film traduit par les Québécois.
Ouais.
On s'est dit que c'était pas mal pour une fois, on adore ça. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous donner donc le titre en québécois et vous allez devoir trouver le titre en français.
Oui.
Voilà. Si je vous dis Voyage au centre de la mémoire, vous me dites, vous pouvez me le faire avec l'accent ?
Voyage au centre de la mémoire.
C'est un film.
Et on veut le titre au centre de la mémoire, là. Bonne tête.
Voilà, c'est le titre français et américain. C'est le titre global, mais les Québécois ont choisi de changer. Voyage au centre de la mémoire. Est-ce que vous l'aviez ?
Absolument pas.
Ok, bon, c'est Total Recall.
Total Recall ?
Ouais.
Voyage au centre de la mémoire.
Film de science-fiction américain réalisé par Paul Verhoeven, quand même, sorti en 90 avec le grand Schwartzy, bien entendu mon idole. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle de Philip K. Dick, Souvenir à vendre, We Can Remember If... pas mon fort l'anglais. Hein.
We can remember it. We can remember it for you, Wholesale. Wholesale.
Ah, j'ai l'impression que c'est pas notre.
Bah non, quoi. Mais we can remember it for you, Wholesale.
Oui,
mais je ne sais pas ce que ça veut dire quoi. Alors on peut pas s'en souvenir pour le Wholesale. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Rien. Bon, en tout cas, Total Recall. Vous voulez le synopsis, on le connaît.
Mais Philip K. Dick qui a quand même aussi fait Blade Runner et Minority Report.
Eh oui, quand même. Très bon. Et ça date aussi. Hein. C'était peut-être pas aussi vieux que H.D. Wells, mais quand même. Allez lire Philip K. Dick, je vous fais pas le synopsis, vous connaissez par cœur ce film.
Oui.
On continue, question numéro 4.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Vous connaissez évidemment Godzilla, mais connaissez-vous le nom donné à ces monstres au Japon ?
À ces monstres ?
Oui, parce qu'il y a plusieurs monstres, il n'y a pas que Godzilla.
C'est vrai. Il y a aussi une énorme... voilà.
Merci.
Non, mais comment on dit un papillon, genre de papillon, un énorme papillon.
Un énorme papillon.
Je crois.
D'accord, bon, c'est les kaiju. Bête étrange ou bête mystérieuse, pour la traduction littérale, est un terme japonais pour désigner des créatures étranges, particulièrement des monstres géants des films japonais appelés kaiju eiga. Okay. La notion japonaise de monstre est différente de celle des occidentaux. Un kaiju est plutôt vu comme une force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant et non pas une force du mal.
Ouais, et puis souvent Godzilla, il vient non pas pour détruire le monde, mais pour sauver les gens.
Enfin. Un peu.
Oui.
Je les ai pas vus vraiment.
Ça, c'est la sauce à l'américaine. Alors que
la sauce à l'américaine.
Ah, oui, avec un petit peu de frites, c'est très bon. Non, mais c'est surtout que c'est la version japonaise. Godzilla vient sauver. Il détruit un petit peu tout ce qui passe.
D'accord.
Lui,
mais par force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant, il faut entendre toutes ces forces de la nature devant lesquelles les Japonais sont impuissants, les tremblements de terre et les tsunamis, ou encore les tempêtes.
C'est vrai.
Voilà,
merci.
C'est aussi pour ça, je vous en prie.
Oh, mais calmez là d'un coup, là. Merci beaucoup. Bon, question twist. Oui, je l'ai annoncé.
Eh ouais, j'allais dire, il annonce comme ça, il annonce, il dénonce, c'est ça 40 mètres les gars.
Le quiz.
Et la question twist, plus 1000, moins 1000, le froc, tout ça.
Il annonce, il dénonce, c'est beau ça, j'aime bien. Question simple, facile et efficace, franchement là, celle-là, elle est cadeau. De quelle planète est originaire Superman ? Cadeau ça, non ?
Oui.
Oui, on a déjà parlé, c'était pas la même question, j'ai vérifié, mais on en a déjà parlé. Vous l'auriez su ?
Oui, je pense.
Oui ! Quand même.
Bah, je suis de cette génération qui a vu les films Superman avec ce monsieur qui a eu un accident de cheval.
Ouais, c'est ça. Reeves
Kenny Reeves.
Pas Kenny Reeves, mais c'est Dexter Reeves, je crois.
Ouais.
Voilà. Allez, Krypton. Bien sûr, Krypton est une planète fictive que l'on retrouve dans les bandes dessinées éditées chez DC Comics. Elle est la planète d'origine du personnage Superman et Supergirl.
Ouais, bon, ça me paraît logique.
Oui, bah bien sûr. La planète fut introduite par Jerry Siegel et Joe Shuster dans le numéro 1 d'Action Comics en juin 1938. C'est incroyable. La planète est décrite et dessinée dans le numéro 1 de Superman en juin 1939. Krypton est la planète natale de Kal-El. Kal-El, bien sûr, c'est ça. Kal-El, c'est le nom de Superman, et de Kara Zor-El, Supergirl. Okay. Kal-El fut envoyé sur Terre par son père, Jor-El, avant la destruction de Krypton. Il existe plusieurs versions quant à la fin de cette planète. Sa disparition pourrait être due à sa modification orbitale, dérivant ainsi peu à peu vers son soleil rouge, celui-ci approchant d'ailleurs de sa mort pour former une nova destructrice.
Waouh.
Voilà. Selon une seconde vision, elle serait due à des réactions nucléaires internes qui conduisirent à une implosion, créant ainsi, grâce aux radiations alors libérées, la fameuse kryptonite.
Et oui, et voilà, qui est rentrée dans le langage courant.
Bien sûr.
On parle maintenant de la kryptonite de n'importe qui.
C'est ça. Moi, c'est une certaine bière.
Ok.
Que j'adore. Vous voulez que je la cite ?
Allez-y.
C'est la Queen of Langstroth.
D'accord.
De Bendorf.
Ok. On embrasse. C'est votre kryptonite.
Ben, je l'adore et pourtant, je bois.
Oui, mais Superman, il adore pas la kryptonite, hein, mais par contre, ça lui fait du mal, oui.
Ben, elle me fait un peu de mal, celle-là.
Ok.
Allez, question 6.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Jean Giraud est le créateur de Blueberry, mais aussi de BD de science-fiction tels que Arzak, Le Garage Hermétique, L'Incal ou Le Monde d'Edena. Mais si vous n'êtes pas un spécialiste du genre, vous avez forcément déjà entendu son pseudonyme, plus célèbre encore que son nom de naissance. Vous l'avez ?
Oui.
J'aurais pas su comme
non,
ça.
Non, moi non plus, là je fais
mais
le
son
malin,
pseudonyme
mais...
est très célèbre.
C'est ça.
Connaissais son pseudonyme.
Parlons ?
J'ai dit, je connaissais son pseudonyme.
Pourquoi ?
Ben oui, je pensais que vous alliez m'en mettre une là.
Pas du tout.
Je vous ai pas insulté.
Non, mais en plus, c'est juste que j'avais pas entendu, donc pardon, excusez-moi.
Mobius.
Bien sûr.
Jean Giraud, connu sous son vrai nom et sous les pseudonymes Mobius et Gir, ou Gir, je ne sais pas, né le 8 mai 1938, c'est passé beaucoup de choses, hein, l'après-guerre.
C'est fou.
Non, l'avant d'ailleurs. Ouais, bon, alors, bon. À nos gens sur Marne. Et malheureusement, il est mort le 10 mars 2012 à Montrouge, est un auteur français de BD. Il est le créateur avec le scénariste Jean-Michel Charlier de la célèbre bande dessinée de western Blueberry, qu'il signe sous le nom de Gir, puis de son vrai nom. Sous le pseudonyme de Mobius, il est l'auteur et ou dessinateur de bandes dessinées de science-fiction, comme je le disais tout à l'heure, Arzak, Le Garage Hermétique, L'Incal ou Le Monde d'Edena, qui lui valent une reconnaissance internationale jusqu'aux États-Unis et au Japon, habituellement peu réceptif à la bande dessinée européenne. Alors, petite histoire sympa, Mobius est l'un des fondateurs de la maison d'édition Les Humanoïdes Associés, éditrice du magazine Metal Hurlant. Il participe également à la conception graphique des films Alien et Tron.
Énorme.
Eh oui.
Énorme.
Son impact sur la bande dessinée sous le nom de Giraud, comme sous celui de Mobius, font de lui l'un des dessinateurs francophones majeurs du XXe siècle.
Incroyable.
Et il y avait une anecdote encore plus sympa que je n'ai finalement pas copié-collé, mais pour un gros projet international, il y a un producteur, je crois, ou réalisateur en tout cas, qui est arrivé à Cannes. Et il s'est arrêté faire pipi sur une aire d'autoroute.
D'accord.
Et dans l'aire d'autoroute, il a vu une BD.
Okay.
Et il avait écrit Jean Giraud, Mobius. Et il a adoré la BD. Mm-hmm. Et il s'est dit, putain, mais il me faut ces gars-là.
Ah ouais, ah ouais.
Et donc,
génial.
il a essayé de les contacter les deux.
Ouais.
Il a réussi qu'à contacter Giraud.
Oui.
Et pendant qu'il lui parlait, à un moment, il lui fait, mais vous savez que j'aimerais bien aussi contacter Mobius. Le mec lui fait, mais
c'est moi, frère.
C'est moi aussi, mon gars.
C'est génial.
Et voilà. Donc en tout cas, Alien, Tron et d'autres grandes productions américaines ont fait appel à lui.
Ils avaient bossé aussi, je crois, sur la première version de Dune, là, où on en avait parlé.
Oui, exactement.
Voilà. Ouais, le mec est en place. Bravo, Mobius, bravo.
Il était.
Ouais.
Ah. Bah oui, il nous a quittés.
Feu.
Écoutez ce que je dis parfois.
Bah, je vous écoute tout le temps, je bois vos paroles.
Merci.
Attention, je vais m'auto-lancer. Charlie, musique. Vous connaissez ?
On en a déjà parlé.
Oui, mais pas de cette chanson.
Ok.
La chanson s'appelle Science Fiction, donc du coup c'était un peu dans le.
Mm-hmm.
Dans quel film ou encore quelle comédie musicale, indice, entend-on cette chanson Science Fiction?
J'aurais pas reconnu.
Moi non plus.
Parce que je ne me souviens que de la chanson phare du film.
Et de la comédie musicale. Je sais pas si c'est les mêmes chansons du coup.
Peut-être. Si.
Ah oui, si quand même.
Si,
bon,
si.
D'accord. Okay. Bon, c'est du classique, hein. Je l'ai vu il y a longtemps, faudrait que je le revoie.
Oui.
The Rocky Horror Picture Show.
Oui.
Voilà.
Ouais, tout à fait.
Voilà, une comédie musicale de Richard O'Brien, créée en 73, hommage au film de série B d'épouvante. La pièce est prétexte à un délire musical rock'n'roll sexuellement débridé et plein d'humour, bien sûr. Son adaptation au cinéma est en 75 sous le titre de Rocky Horror Picture Show et peu à peu devenu culte. Le film détient d'ailleurs le record de la plus longue sortie en salle de l'histoire du cinéma puisque plus de 40 ans après la première projection, il fait encore partie de la programmation de plusieurs salles à travers le monde. Le Rocky Horror Picture Show est une suite.
Oui.
Eut une suite officielle en 81, nettement moins connu, Shock Treatment, ainsi qu'un remake télévisuel en 2016.
Ah bon ?
Je savais pas ça.
Non, moi non
plus.
Pas.
The Rocky Horror Show, Picture Show, fut monté en français en avril au théâtre de la Porte Saint-Martin dans une mise en scène de Pierre Spivakov,
okay,
qui interprète également le rôle de Frank Enfurter, mm-hmm, et l'adaptation des paroles confiées à Alain Boublil, qui est le père de...
Le Max.
Pas du tout.
Okay.
Elle était bonne.
Ah,
voilà. Question numéro 8.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Charlie, les chiffres.
15 307 095 spectateurs.
Wow,
des chiffres, des chiffres.
Les Italiens. C'est le plus gros succès d'un film de science-fiction au box-office français. À votre avis, quel est ce film sorti en 2009? Un indice, je ne l'ai pas vu et on en a déjà beaucoup trop parlé.
C'est vrai. Puis on avait dit, le 2, ça marchera
et
jamais.
Et ben, le 2 se classe en deuxième position des films science-fiction les plus vus de l'histoire du box-office français.
Non, on a du nez. Le 2, marchera pas.
Avatar,
bien sûr,
de James Cameron, sorti donc en 2009, 15 347 095 spectateurs, en deuxième position Avatar, La Voix de l'eau, quand même 14 537 spectateurs, en troisième position Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, 2015, avec plus de 10 millions, 20 milieux sous les mers quand même, de Richard Fleischer, 9 623 754 spectateurs pour 20 millions sous les mers. Et enfin, pour ce top 5, E.T.,
oui,
l'extraterrestre de Steven Spielberg, 9 453 284 spectateurs.
Mais c'est fou, hein, parce que 20 milieux sous les mers, c'est quand même 54, 9 millions de, de gens qui sont allés au cinéma.
De spectateurs,
ouais,
oui, de gens qui sont allés au cinéma.
Bah,
ouais. Après, je ne sais pas si ça comptabilise les vues à travers les temps, parce qu'il a dû sortir et ressortir. Mais en même temps, à l'époque, effectivement, les films de cinéma faisaient beaucoup de
non,
recettes,
vrai,
puisque les gens n'avaient pas forcément tous la télé.
Exactement. J'aime bien la précision du genre des films. Avatar, c'est un planète opéra.
Oui, effectivement, selon Wikipédia, Avatar, planète opéra. Star Wars, c'est space opéra.
Mm-hmm.
20 minutes sous les mers, aventure. Et E.T., contact.
Contact. Ça vous parle? Quel film?
Commando?
Non, pas loin.
C'est quoi?
Bah, Predator.
Ah, Predator, ah bon, contact, il dit.
Bah oui, contact.
Ouais, pourtant, c'est un de mes films préférés de Shorty.
C'est, vous savez, quand il est avec la
celle qui tourne, ouais.
Ouais,
la sulfateuse, ouais, la gigoteuse.
C'est ça, et il tire comme ça, il fait une clairière.
Oh, putain.
Et il gueule, contact! Vous vous souvenez?
Oui.
Merci.
C'est qui tire? C'est Shorty?
Non, c'est.
L'autre musclé?
Non, c'est celui qui a pas de cheveux. L'un des blacks qui n'a pas de cheveux, qui perd son pote, justement. Qui perd son pote avec les lunettes, là.
Ok.
J'ai plus les noms.
C'est pas Apollo Creed?
Non, c'est pas lui.
Ok.
Lui, il se fait couper le bras avec quand il a Uzi à la main.
Bon, question numéro 9.
On fera un spécial Predator un jour. Allez, écoutez ça, ça va vous mettre dans l'ambiance, les amis. Bon, là, direct. Ce n'est pas la question,
oui,
bien sûr. Ce n'est pas la question. Vous avez reconnu la soupe au chou. Donnez-moi le nom de l'extraterrestre qui vient à la rencontre du Glaude et du Bombay après une longue soirée de paix.
Il est content, il a dit paix, il est heureux.
Ben oui. Bon, ça aussi c'est facile.
Oh non.
Ah bon?
Ouais, j'aurais. En le lisant, oui. Mais de tête comme ça, non. Je l'ai pas vu tant que ça. Hein. Il m'a longtemps fait peur. Hein. Je crois que je l'ai regardé la première fois il y a 4 ans, quoi.
D'accord.
Pas peur parce que j'avais peur des scènes, mais peur parce que j'avais l'impression que ça allait être vraiment merdique. Ça allait pas tant que ça.
Ah, d'accord. En plus, il est un peu triste.
Il est terriblement triste à la fin.
Je suis d'accord, c'est super triste.
Bah oui, c'est presque un drame.
Oui. La denrée! Joué bien entendu par Jacques Villeray, qu'on adore vraiment. Un grand monsieur. La soupe au chou est un film français, bien sûr. Réalisé par Jean Giraud, sorti en 81. J'aurais mis ça quelques années avant, mais bon. Comédie mêlée de science-fiction adaptée du roman du même nom de René Fallet. Ou Fallet, par exemple.
Non, c'est Fallet, oui. Fallet. Il a fait beaucoup de.
Ah ouais.
Beaucoup de ses romans ont été adaptés, me semble-t-il, au
d'accord.
cinéma.
Ce qui est bien, c'est que le livre est sorti en 80, le film est sorti en 81.
Ah, ils n'avaient
pas
le temps.
Ils n'ont pas attendu. C'est un bon livre. Allez, on en fait un film. Le film rassemble les acteurs Louis de Funès, bien sûr, dont c'est l'avant-dernier film d'ailleurs. Jean Carmet et Jacques Villeray. À sa sortie, le film est un succès commercial modéré en comparaison des habituels succès de Louis de Funès et reçoit des critiques majoritairement négatives de la part des professionnels. Cependant, il est considéré comme un film culte par le public et réalise toujours de bonnes audiences à la télévision. Alors, pour vous donner envie de le voir, si vous ne l'avez jamais vu, deux amis de longue date vivent dans un hameau campagnard, ils sont septuagénaires et sont tous l'un pour l'autre. Claude Ratigné dit le Glaude, un sabotier veuf, et Francis Chéras dit le Bombay à cause de sa bosse. Et puis Attier, leur lieu dit
meubles et décorations.
Bon, en gros, ils s'entendent très bien. Ils passent des soirées à boire des couilles, à manger. Ouais. Et un soir, ils pètent sous les étoiles. Et puis, y a un extraterrestre qui arrive.
Qui est attiré par ça.
Voilà, c'est la denrée qui vient de la planète Oxo. Et puis après, s'ensuit des moments drôles et des moments beaucoup moins drôles.
À la fin.
Ouais, non. Ouais. À la fin. Si on peut vraiment spoiler, la fin est quand même belle.
Elle est. Oui, mais.
Ils partent en train avec les copains, quoi.
Oui, oui, mais il y a sa femme qui revient à la vie.
Ouais, je sais. Puis elle part avec
Et elle est jeune, et elle part avec un jeune.
Non, ça, c'est très triste. Bon, on vous a niqué le film, mais si vous avez envie de le voir, allez le voir quand même, c'est un classique. Question numéro 10.
Charlie.
Oui.
Allez-y.
Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain.
Oui.
Passage hautement tragique et hautement célèbre, en tout cas pour ma génération. Je n'ai jamais vu ce film.
Moi non plus.
Mais je connais, je ne suis pas un animal, oui. Je suis un être humain. Je l'ai beaucoup entendu et répété dans la cour d'école, sous les railleries de mes camarades. Oh. De quel film est tiré ce célèbre et légendaire dialogue ?
C'est vrai qu'on connaît un peu cet extrait, mais j'ai jamais vu le film.
Bah, moi non plus. Okay. Et je suis pas certain d'avoir envie de le voir.
Bah ouais, moi non plus. Moi non plus. Ça doit être encore plus tragique que la soupe au chou.
Je pense.
Pardon, c'est pas drôle.
Elephant Man.
Oui.
Elephant Man, titre original dit Elephant Man,
ah.
Bon, est un film américain réalisé par David Lynch.
Incroyable.
Eh ouais, sorti en 1980. Ce film tourné en noir et blanc est une adaptation romancée des mémoires de Frédéric Treves, le médecin qui prit en charge Joseph Merrick, surnommé Elephant Man, ouais. L'homme éléphant, dû au fait de ses nombreuses difformités. Dans le film, le personnage porte le prénom de John Merrick.
Ah.
Alors, il a gagné de nombreux prix, notamment le César en 1982,
oh.
Du meilleur film étranger.
Joli.
Voilà.
Bah, voilà. Bah, c'est David Lynch, quoi.
David Lynch, 1980, okay. Elephant Man, qui, dans les années, dans le siècle dernier,
ouais.
C'était une réplique qui était régulièrement utilisée, comme ça, je ne suis pas un animal, je suis un être humain.
Je ne suis pas un animal.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Je sais pas pourquoi il est russe tout d'un coup.
C'est vrai, c'est parce qu'il joue dans Double Contact. C'est
ah bon
ça, non ?
Je sais pas.
C'est pas Double Contact où Schwarzy était russe ?
Non, parce que moi je fais la version
double détente.
En plus.
Oui,
bon, bref.
Les nuls. C'était Double Détente, pardon. Question numéro 11, question simple. Enfin, normalement, quel est le nom du personnage de Bruce Willis dans le film Le Cinquième Élément ?
Jamais vu.
C'est vrai ?
Jamais.
Bon, il est pas mal quand même. Si un jour vous avez un après-midi où vous vous embêtez.
Ouais.
Si, il faut le regarder.
Alors, à l'époque, on n'avait pas le choix, mais maintenant, faut pas le regarder en VF, non ? Parce qu'il a pas la même voix.
Ah, ouais, c'est vrai.
Je sais que c'était pas le même doubleur pour Bruce Willis dans ce film et que ça a dérangé pas mal de gens.
C'est possible, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Corben Dallas.
Corben Dallas, ok.
C'est son nom. On a déjà parlé, mais à la base, c'est Jean Reno qui aurait dû jouer ce rôle. Mais vu qu'il avait déjà joué le rôle de Léon avec Besson, il a choisi Bruce Willis. Je pense que c'est un bon choix. En tous les cas, Le Cinquième Élément est un film de science-fiction français. Tourné en langue anglaise, coécrit et réalisé par Luc Besson, sorti en 97, nommé aux César et aux Oscars, le film obtient 3 Césars, dont celui du meilleur réalisateur. Le film a été le plus grand succès du box-office français en 97 et fait partie des productions françaises ayant fait le plus de recettes à l'international. Malgré un accueil critique mitigé, il a également acquis le statut de film culte,
ouais.
Comme La Soupe aux Choux. Petite info mode,
allez.
Les costumes futuristes et hauts en couleur qui habillent tous les personnages du film,
mm-hmm.
sont signés Jean-Paul Gaultier.
Ben voilà, il avait dit l'Ovalie, c'est moi. Le Cinquième Élément.
Et pour les faras de mode, la même année, il sortait sa première collection haute couture Gaultier Paris.
Ah oui, à retenir hein, pour le quiz spécial mode que nous réclame une auditrice qu'on embrasse, hein, qui veut un spécial mode.
On le fera.
C'est pas gagné.
Non, vraiment pas.
Nous recherchons une web-série devenue série TV avant de connaître son adaptation au cinéma en 2022. Voici le début du résumé. Raph est un jeune homme paisible et sans histoire jusqu'à un jour de 2009 où, alors qu'il flâne avec ses deux amis Tim et Léo, un étrange personnage ensanglanté apparaît comme par magie devant lui grâce à une machine qu'il porte en bracelet. Ça vous dit quelque chose ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui, je l'ai vu.
Vous avez vu le film ?
Ah, j'ai vu le film.
La web-série, la série ?
J'ai pas vu la web-série.
Okay.
J'ai pas vu la série, mais j'ai vu le film.
Ok, et c'est bien ?
Ouais, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal.
J'ai noté le voyageur du futur, Mais en fait, c'est le visiteur du futur.
Exactement.
Ah oui, pourquoi j'ai noté voyageur? Je suis un con.
Pas.
Le visiteur du futur est une web-série française de science-fiction et de comédie réécrite et réalisée par François Descraques. Le premier épisode est apparu le 26 avril 2009 sur Dailymotion. Avant de connaître une diffusion télévisée, une adaptation en film sort en 2022. L'histoire est au départ centrée sur la vie de Raph, un jeune homme sans histoire qui rencontre un homme affirmant venir du futur. Qui est interprété par Florent Dorin et Raph est interprété par Raphaël Descraques,
oui.
Le frère de François Descraques, pour tenter d'empêcher la fin du monde. 4 saisons, 57 épisodes. En 2021, c'est les derniers chiffres, elle comptabilisait 40 millions de vues quand même.
Quand même, hein.
Eh ouais.
Après, moi, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que ça part d'une web-série, ça finit au cinéma.
Oui, oui, mais ça, François Descraques est un auteur très, très talentueux qui a participé à beaucoup de sketchs et de séries. Il était... Très en vue
et en place
à l'époque, exactement.
Exactement. Sarah Connor,
c'est à côté.
C'est de pire en pire. Bon, je l'ai en même temps, c'est la première fois que je le fais. Question numéro 13. Question série et film culte, enfin surtout film culte, qui aura droit d'ailleurs à son 7e film en 2024. Quel est ce film?
Ah ouais.
Indice: Xenomorph.
C'est quoi Xenomorph?
Ben, c'est un gros indice.
Ça m'aide pas du tout, hein. Donc, mais pourtant, je suis fan de ça.
Ah ouais? Quelle série de films cultes aura le droit à son 7e film
7e
en 2023?
7e film, c'est sûr.
C'est sûr.
C'est pas censé être une série?
Ah, c'est peut-être une série. Non, non, c'est un film. Mais il y a une série qui arrive aussi, je crois.
Ah bon, ok.
Voilà. Alien.
Alien!
Bien sûr. Et Xenomorph, c'est un alien.
Ok.
C'est le nom de l'alien.
Ah bah, je savais pas.
Alien Romulus est un film de science-fiction horrifique américano-britannique réalisé par Fede Alvarez.
Mmh.
Et dont la sortie est prévue le 14 août 2024.
Cool.
Et il s'agit du 7e film de la série Alien qui se situe.
C'est pas ironique, j'ai hâte.
Non, non, ouais. Bah ouais. Qui se situe chronologiquement entre les événements du film Alien, le 8e passager, et Alien,
oh,
le retour.
Ouais, mais là, on s'en fout alors. Bah,
franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal.
Okay.
Le synopsis: quelques années après les événements sur le vaisseau Nostromo, un groupe de jeunes colons de l'espace se retrouve face à face avec la forme de vie la plus terrifiante de l'univers, alors qu'ils fouillent les profondeurs d'une station spatiale abandonnée.
Mmh.
Voilà.
Ouais.
Un film avec Kaylee Spaney, Isabella Merced, David Johnson, Archie Renaud, Spike Finn et Aileen Wu.
Et
vous
donc,
en connaissez
un? Non.
Moi non.
Il n'y aura pas, notre ami.
Si vous connaissez?
Bah ouais.
Bah non.
Ok.
Désolé. Bah, en revanche, vraiment, la bande annonce est cool et c'est coproduit par Ridley Scott. Donc normalement, on garde les codes du genre.
Oui, merci. Mais enfin, c'est lui qui a fait Prometheus et Covenant. Donc,
Bon, c'est pas faux.
Ah ouais. Mais bon, je regarderai avec grand plaisir.
Oui, bon, c'est le 7e, après Alien, le 8e passager, Alien le retour, Alien 3, Alien la résurrection, Prometheus, Alien Covenant, et donc Alien Romulus qui arrive le 14 août, voilà. Franchement, ça a l'air pas mal. On le regardera quand même.
Ok.
Ouais, ça va.
Nous recherchons un écrivain français considéré par beaucoup comme le père de la science-fiction à la française.
Oh.
Il est notamment l'auteur de Ravage, La télévision Œil de demain, ça va être assez hallucinant, vous allez voir ça si vous ne connaissez pas. La nuit des temps ou encore L'Enchanteur, de qui s'agit-il? Pas facile, je sais.
Pas facile, et en même temps là vous m'avez vendu avec...
La télévision Œil de demain, vous connaissez forcément.
Ouais, ok.
Parce que les images sont diffusées régulièrement sur les réseaux.
D'accord.
Vous allez voir.
Je vais voir.
René Barjavel. René Barjavel, né le 24 janvier 1911 à Nyons, dans le Drôme, ou Nyon, je ne sais pas.
Drôme.
Dans... Ouais, j'ai dit le Drôme.
Oui,
ah ouais,
le Drôme de Marseille.
Exactement. Est mort le 24 novembre 85 à Paris, dans la 14e. Ah, c'est la course de chevaux.
Oui, c'est ça.
Est un écrivain et journaliste français, également scénariste et dialoguiste de cinéma. Il est principalement connu pour ses romans d'anticipation de science-fiction ou fantastique, dans lesquels s'exprime l'angoisse ressentie devant une technologie que l'être humain ne maîtrise plus. Certains thèmes reviennent fréquemment dans son œuvre littéraire. Chute de la civilisation causée par les excès de la technologie et la folie de la guerre. Caractère éternel et indestructible de l'amour, notamment dans Ravage, La nuit des temps, Le grand secret, Une rose au paradis. Son écriture se veut poétique, onirique et parfois philosophique. Il a aussi abordé dans ses essais l'interrogation empirique et poétique de l'existence de Dieu, notamment la fin du tigre. La fin pour la nourriture, le début du commencement. Et le sens de l'action de l'être humain sur la nature. Pour info, c'est de l'adaptation en documentaire de La télévision Œil de demain que sont tirées les célèbres images dans lesquelles on découvre ce que devrait être le futur de ce média. Charlie, enregistrement.
Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle.
Alors, ce que vous venez d'entendre et que je vous invite à aller voir sur YouTube date de 1947.
Ah, quand même.
Alors, sur les images, on voit des personnes tenant ce qui ressemble à des smartphones.
C'est dingue.
Ils sont attablés en train de prendre leur café et ils ont une petite radio, mais avec une image dessus.
1947.
Et on entend et on voit dans ce documentaire, par exemple, il y aura également des problèmes de circulation parce qu'il y a un connard avec son téléphone qui regarde la télé et il empêche les bagnoles d'avancer, donc ça klaxonne. Donc en 1947, il avait déjà compris que la télé allait entrer plus que dans le quotidien, mais carrément dans la journée entière de la personne, et qu'on allait se déplacer avec, et que ça allait causer de nombreux problèmes, de gens qui ne se parlent plus, de gens qui créent des problèmes de circulation parce qu'ils ne regardent pas comment ils traversent.
Incroyable.
Plein de choses comme ça. Et donc ça, c'est Barjavel qui l'a imaginé, et c'était tellement ouf qu'ils en ont fait un documentaire, et vous regardez sur YouTube, ça passe souvent sur les réseaux, mais vous allez voir... On se dit, c'est dingue comment ils ont pu imaginer qu'effectivement ça tiendrait dans la main.
C'est dingue.
Alors que nous qui sommes nés dans les années 80, 20 ans avant que ça existe,
impossible.
On n'imaginait pas une seconde que ça allait exister.
Incroyable. 47.
En 47.
Ok, bah merci.
Je vous en prie.
Ça donne des frissons, ça fait un peu peur.
Ça fait peur d'avoir des gens aussi intelligents qui ne sont plus là.
Visionnaire, il voit ça 80 ans en avance, c'est assez dingue. Merci Christophe.
Je vous en prie.
Allez, question série.
Je vous en prie.
Et attention, question série récente. Elle vient de sortir le 10 avril dernier, c'était en 2024, ça c'est si vous nous écoutez un peu plus tard. Série de science-fiction action-aventure basée sur un jeu vidéo, un RPG qui se déroule après une guerre nucléaire. Je crois que j'en ai déjà un peu trop dit. Question simple, quelle est cette série ou ce jeu vidéo? Ça marche aussi. Ou pas?
Non. Enfin, j'ai vu le JDG tweeter dessus en disant que c'était bien.
C'était bien par rapport au jeu. Je n'ai ni joué au jeu.
Bah, moi
ni
non plus, voilà. Donc c'est pour ça le pitch ne m'inspire pas, mais c'est vrai que c'est un jeu célèbre.
Oui. Fallout.
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 Ouais, Fallout.
Oh, je dis la française. Fallout.
Oh,
Fallout.
Oh là, un seul Fallout, hein.
Fallout est une série télévisée.
Voilà. Elle est bien, la série Fallout.
Ouais. Post-apocalyptique américaine créée par Geneva Robertson Dowart et Graham Wagner.
Ah ouais, Fallout, quoi.
Fallout, quoi. Et diffusé depuis le 10 avril 2024 sur Prime Video, il s'agit de l'adaptation de la franchise de jeux vidéo de rôle créée par Interplay Entertainment, désormais détenue par le studio de jeux Bethesda Softworks, comme ça vous savez tout.
Okay.
Synopsis, la série dépeint les conséquences d'une guerre nucléaire dans une histoire alternative d'un monde rétro-futuriste des années 50.
Purée.
Déjà, c'est que ça commence bien. La série montre les conséquences d'une frappe nucléaire apocalyptique dans une histoire alternative de la Terre dans laquelle les progrès de la technologie nucléaire après la Seconde Guerre mondiale ont conduit à l'émergence d'une société rétro-futuriste et à une guerre des ressources. De nombreux survivants sont réfugiés dans des bunkers appelés Vault, construits pour protéger l'humanité en cas d'anéantissement nucléaire, sans savoir que chaque Vault était destiné à mener des expériences psychologiques sur ses habitants.
Ouh,
ça a l'air pas mal, hein.
Ouais, bah ça me rappelle un peu Silo.
Ah oui, exactement.
On dirait un petit peu.
Ouais. Bah, je vais peut-être aller me regarder.
Bah oui, moi aussi, là, vous m'avez convaincu.
Et bah, en lisant ça, je me suis dit, allez, j'y vais.
Ok.
Question numéro 16.
Si je vous dis un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre, de quoi s'agit-il?
La peur?
Un peu.
Un petit peu quand même, là, vous m'avez fait peur. Bon, on en parle souvent. On aime bien.
Ouais, mais sans connaître la définition complète, hein, parce que j'aurais pas donné ça.
Ah bah non, ouais.
Je me serais content de dire qu'il s'agissait du contraire de l'utopie.
Oui.
C'est une dystopie.
Ah oui.
Une dystopie peut également être considérée, entre autres, comme une utopie qui vire au cauchemar en réalité.
D'accord.
Et conduit donc à une contre-utopie.
Ok.
Ouais, j'ai dit cutritopie.
Oui, bah ça marche aussi.
L'auteur entend ainsi mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d'une idéologie ou d'une pratique contemporaine. De fait, la différence entre dystopie et utopie tient davantage à la forme littéraire et à l'intention de son auteur qu'au contenu. En effet, nombre d'utopies positives peuvent également se révéler effrayantes.
Oui.
Le genre de la dystopie est souvent lié à la science-fiction, mais pas systématiquement, car il relève avant tout de l'anticipation. Ainsi, l'impact que ces romans ont eu sur la science-fiction a souvent amené à qualifier de dystopie toute œuvre d'anticipation sociale décrivant un avenir sombre. Mais ce n'est pas le cas. Cette forme littéraire a été popularisée par des romans devenus des classiques du genre dystopique. 1984, qui est sorti en 49, de George Orwell, bien sûr. Fahrenheit 451, en 53, de Ray Bradbury. Soleil vert, en 66, de Harry Harrison. Hein, Monsieur et Madame Harrison, vous voulez comment, votre fils?
Harry
Harrison. Un bonheur insoutenable en 70 de Ira Levin. Le genre a connu des déclinaisons dans d'autres domaines artistiques, notamment au cinéma, avec de nombreuses adaptations de romans dystopiques, mais aussi des créations originales comme Metropolis de Fritz Lang, THX 1138 de George Lucas, ça j'ai jamais vu, Brazil de Terry Gilliam, et Bienvenue à Gattaca notamment en 97 d'Andrew Niccol.
Bon, c'est triste, mais en même temps, on aime bien ce genre de science-fiction. Enfin, moi, j'aime bien.
Oui, 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 bah, effectivement. En tout cas, en ce qui me concerne pour les films, c'est vrai que Bienvenue à Gattaca, par exemple, est un incroyable film.
Exactement. Here comes the man in black.
C'est à côté. C'était pas le Joker, hein, mais moi, si quelqu'un, j'ouvre la porte, le mec me fait ça, je... c'est pas là.
C'est pas parti, hein, monsieur. Non. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de Men in Black, bien sûr. Vous l'avez vu?
Oui.
Oui, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, vous vous souvenez de la petite machine qui flash là et qui permet d'effacer la mémoire des gens. Eh bien, quel est le nom de cette machine? Voilà.
Non, c'est bien. Bah, si, c'est bien. Honnêtement, je m'en souviens pas.
Ouais, mais c'est vrai que ça marque. On l'a tous fait avec un stylo. Eh, hey, bah, t'as oublié ce que je viens de. Non, vous l'avez pas fait?
Non.
Ok, bon. Bon, bah, je vais arrêter de le faire alors, en 2024. Peut-être un peu.
Allez.
Le Neuralizer, ou le Neurolaser en français, également surnommé le Flashouilleur.
Ouais, Flashouilleur, ouais. Voilà.
Neuralizer, Neurolaser, Flashouilleur, ça marche dans le doublage français. Will Smith dit Flashouilleur, voilà, c'est ça.
Ok.
C'est un appareil utilisé par les Men in Black pour effacer la mémoire du public mis en relation avec des extraterrestres ou témoins d'un phénomène prouvant leur existence. Il apparaît pour la première fois dans le comic Men in Black, puis dans les quatre films, devenant un symbole des MIB. Comme leurs lunettes de soleil et leurs costards.
Je savais pas que c'était un comic avant un comics ou comic. Bon, en tout cas, je ne savais pas.
Bah écoutez, maintenant on le sait.
Oui,
Sarah Connor.
C'est à côté. Bah, je sais pas. Tout d'un coup, c'était la version Lisboète. Jules Verne nous a offert de nombreuses et incroyables histoires. Nous recherchons maintenant le titre de l'un de ses romans dans lequel ses personnages vont devenir les premiers êtres humains à rejoindre la Lune. Quel est son titre?
Jules Verne.
Non, c'est pas le titre du livre, c'est son auteur.
Non, mais j'essaie de reprendre votre voix, enfin, vous étiez très posé, où il y avait.
La conquête spatiale.
Ah, c'est vrai.
La moitié du titre était déjà dans la question.
Oui.
De la Terre à la Lune.
Ah oui.
Eh oui, de la Terre à la Lune, trajet direct en 97h20. Je crois que c'est le titre en entier.
Ah ouais, génial.
Est un roman d'anticipation de Jules Verne, paru en 1865, quand même.
C'est fou.
Il relate comment, après la fin de la guerre de Sécession, une association d'artilleurs et de scientifiques liés à l'industrie militaire tente d'envoyer sur la Lune un obus habité par trois hommes. De la Terre à la Lune forme la première partie d'un diptyque qui se clôt avec Autour de la Lune par an, paru 4 ans plus tard. Plusieurs personnages de ces romans sont remis en scène dans Sans Dessus Dessous, publié 20 ans plus tard sans grand succès, puis redécouvert en 1975. Bon, l'œuvre figure parmi les romans les plus connus de Jules Verne. Elle est devenue une référence dans le domaine de la science-fiction avec de nombreux héritiers, comme le roman de H.G. Wells, Les premiers hommes dans la Lune en 1901.
Incroyable.
Le roman a été adapté de nombreuses fois à l'écran pour le cinéma et la télévision, et ce, dès 1902 par Georges Méliès, bien sûr, et son célèbre Voyage dans la Lune. Vous savez, la fusée qui arrive directement dans l'œil de la Lune. Image célèbre. Rappelle quand même qu'il a fallu attendre officiellement le 21 juillet 69 pour que Neil Armstrong se pose sur la Lune.
Encore une fois, ils avaient 70 ans d'avance.
Et ils avaient 100 ans d'avance. Parce que il est paru en 1865 et Neil Armstrong est arrivé sur la Lune en 69.
Oh là là, moi j'étais bloqué.
100 ans d'avance quand même.
Ouais, bah, y a des mecs qui sont balèzes, quoi.
Ah
qui
oui,
ont de l'imagination, mais de l'imagination qui ne devient plus imaginaire, qui se concrétise.
C'est
je savais pas où j'allais.
Anticipation.
Merci. Sarah Connor!
C'est à côté!
Comédie musicale, bien sûr. Qui...
ah oui, bien sûr, évidemment.
On va rester dans la SF. En même temps, c'est le thème du jour. Direction le film Retour à le futur. Ça faisait longtemps.
Oui.
Dans le troisième volet de cette trilogie, à la fin, la DeLorean est détruite. On se souvient.
Ouais.
Mais Doc réapparaît avec un train.
Avec un train.
Ouais, un train à voyager dans le temps. Il est avec sa femme, Clara Clayton Brown, la professeure.
Bien sûr.
Voilà. Et il nous présente ses deux enfants.
Ouais.
Quels sont les prénoms de ces deux enfants?
Eh oui.
Petit indice, il y a pas longtemps. C'est-à-dire que le...
Oui, bah voilà. C'est-à-dire qu'on a évoqué ces deux prénoms sous forme d'un nom il y a quelques instants.
C'est ça, c'est gratos, ça fait plaisir. Jules Evern.
Eh oui.
Eh oui, de leur vrai nom, Jules Eratosthène Brown, interprété par Todd Cameron Brown.
Ok.
Voilà. Le fils aîné d'Emmett Brown et de Clara Clayton. Et Vern Newton Brown, interprété par Daniel Evans.
Ok.
Voilà.
Evans.
Evans, mieux, ouais. Le fils cadet d'Emmett Brown et de Clara Clayton. Les prénoms des deux enfants Brown sont une référence, bien sûr, à Jules Verne.
Ouais, c'est ça.
L'auteur favori de Doc et de Clara. Et il y a une petite anecdote.
Ouais.
Voilà, vous ne verrez plus jamais la fin de ce film de la même manière, puisque l'un des deux gamins, Jules ou Verne, je sais pas, pendant la séquence, regarde la caméra qui filme. Donc il filme la scène,
ouais.
Et lui fait un petit geste de la main en disant viens, avance vers moi. Et on voit, moi je vois plus que ça. Vous voyez la scène ou pas?
Le gamin regarde la caméra parce que le caméraman lui fait un geste en lui disant avance vers moi, c'est ça?
Non.
C'est le gamin qui dit à la caméra avance vers moi. Ah ouais, le gars il donne des ordres.
Exactement.
Quoi.
Donc en fait, on voit la scène où on s'embrasse et tout. Et en fait, il y a le gamin derrière qui regarde la caméra et qui fait un petit geste de main comme ça en disant viens, approche-toi avec la caméra.
Viens. J'ai envie de te faire l'amour, la caméra.
Si vous aviez la ref, si vous avez déjà vu ça, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Puis après, on a quand même des jeux de mots avec la question de la semaine dernière. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure.
Si comme moi, vous n'avez jamais regardé Star Trek, vous allez peut-être réussir à répondre à cette question. Qui sont ces extraterrestres originaires de la planète Kronos, dont la langue est devenue une vraie référence de la pop culture ?
Jamais vu et pourtant on connaît.
Mais évidemment, bien parce sûr. Que dans chaque
épisode de Big Bang Theory,
par exemple, ouais. Ou même dans les Simpsons,
oui,
hein, puisque la langue est régulièrement citée par le vendeur de BD.
Ah oui, c'est vrai.
Le Klingon.
Oui.
Les Klingons sont, alors c'est également le nom de cette race d'extraterrestres. Les Klingons sont dans l'univers de fiction de Star Trek une espèce d'extraterrestre originaire de la planète Kronos. Okay. Ou en Klingon. alors la prononciation est peut-être pas la bonne. Le Klingon est une langue fictive également de l'univers de fiction de Star Trek. Elle est la langue de la race extraterrestre Klingon. Logique.
C'est bizarre.
Elle a été créée en 1985 par Mark Okrand dans les studios qui produisent les séries Star Trek. Sa syntaxe est agglutinante.
D'accord.
La grammaire de la langue est inspirée de celle des langues amérindiennes. Elle fait l'objet d'un enseignement aux États-Unis.
Incroyable.
Et un institut lui est consacré, le Klingon Language Institute.
Mais non.
Ce dernier a notamment traduit en Klingon et publié l'épopée de Gilgamesh. livre très intéressant, ouais. De l'époque sumérienne, encore une fois, j'aime la citer. Tao To King, bon ça je ne connais pas, Beaucoup de bruit pour rien et Hamlet.
Incroyable, voilà. C'est drôle.
Alors là par contre, amusant,
ah.
De 1996 à 1999, Armand Spears, informaticien, n'a parlé à son fils Alec qu'en Klingon.
Ah oui, d'accord.
Afin de voir si celui-ci deviendrait un locuteur naturel de cette langue construite.
C'est fou.
Même si l'enfant prononçait le Klingon à la perfection, il a fini par manifester une hostilité à cette langue à laquelle il préférait celle qu'utilisait sa mère, l'anglais.
L'anglais. Le pauvre.
Il y a des mecs, je veux dire, Armand Spears, il s'est dit, je vais pourrir la vie de mon
c'est
gosse.
C'est clair, quoi.
Pendant 3 ans, je vais te parler qu'en Klingon, c'est connard. Non, parce que le petit, ouais, bon, Dieu merci, sa mère lui parlait en anglais,
oui.
Mais vous imaginez parler dans une langue que seul papa peut comprendre. Alors, ça peut arriver, évidemment, dans beaucoup de pays pour des gens, des immigrés, des gens qui vivent dans un pays où ils ne connaissent personne. Ça arrive, évidemment, mais il y a quand même regarder, lire dans cette langue.
Ouais, ouais. Là,
mais là, en Klingon, à part te taper Hamlet ou l'épopée de Gilgamesh ou Star Trek, l'intégrale.
Oui, c'est ça. J'aime bien. Il a fini par manifester
une hostilité. Ouais, au bout d'un moment, il a dit non, j'en ai ras le cul.
J'en ai marre. Voilà. Je sais pas comment on dit ça en Klingon. On ne saura jamais.
Mais on demandera au fils Alec.
Le pauvre. Bon, c'est la fin de cet épisode de 40 mètres, les gars. Mais attention, on a bien sûr la question qui vous permet de gagner des cadeaux que vous ne recevrez
jamais.
Bien sûr. Alors, la semaine dernière, c'était quelle saison se trouve après le printemps? Vous vous souvenez? On avait demandé à faire des jeux de mots.
Ouais.
Voilà. Et on en a eu quelques-uns. Il y a Amaury qui nous dit j'y étais, les gars.
Ah, bien vu.
Bravo. Il y a Fabulous Fab qui écrit les Étéliens.
Joli.
Pas mal aussi. Et après, il y a Nenes qui est venu nous balancer sa connaissance,
sa culture
de la musique, en disant j'ai le droit à un cadeau, le catalogue Rium est le catalogue le plus récent et le plus complet de l'œuvre d'Antonio Vivaldi. Il a été établi par le musicologue danois Peter Rium et publié en 73. C'est ce catalogue qui est systématiquement utilisé pour les éditeurs de partitions et d'industrie du disque. À chaque œuvre de Vivaldi, on associe un numéro précédé de RV ou R.
Ah, c'est pour ça.
Voilà.
Alors. Merci. Parce que je me disais jusque là, j'en avais rien à carrer.
Mais oui.
Mais c'est à la fin, ça. Merci.
Merci, Nanas. C'est bien sûr. Nestor, que vous connaissez.
Alors pas merci. Va te faire voir.
Je savais. Bon, alors, est-ce qu'on choisit les J'y étais, les gars, ou les Étéliens?
Bah, on peut les deux, puisqu'il n'y a pas de cadeau, on s'en
Allez,
fout.
Allez, on vous offre un cadeau que vous ne recevrez jamais, les amis.
Voilà.
Prochaine question.
Et
pour...
n'hésitez pas à vous prendre en photo avec le cadeau que vous ne recevrez jamais et nous l'envoyer.
C'est vrai, ça. Prenez-vous en photo quand vous nous écoutez, prenez-nous des vidéos. Enfin, voilà, on veut savoir où vous écoutez, j'allais dire RFM, mais non. 40 mètres, les gars.
Le quiz.
Avec la nouvelle question de cette semaine. Qui a réalisé Jurassic Park?
Allez.
Qui a réalisé Jurassic Park?
Allez, je quitte. Bisous.
Et on se retrouve quand même vendredi pour 15 minutes, les gars.
Ouais, le quiz.
Ah, merci, bisous.